Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au passage qui est indiqué au bas de l'écran. Donc Marc, Évangile selon Marc, chapitre 8. Et nous allons commencer la lecture au verset 10. Donc, Marc 8, verset 10, et je donne lecture. Aussitôt, Jésus monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Il leur dit, « Ne comprenez-vous pas encore ?» Et c'est la parole de Dieu. C'est ce passage que nous voulons examiner. Alors qu'il y a assez longtemps, j'avais déjà passé du temps pour réfléchir à ce passage et j'avais donné un message. Mais cette fois-ci, en revenant au passage, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus qu'on peut couvrir dans la situation où nous sommes actuellement. Donc nous resterons probablement avec Marc 8 pendant un petit moment. Mais nous venons maintenant, aujourd'hui, à regarder les soupirs de Dieu. On continuera probablement, Dieu voulant, la semaine prochaine. Et on peut lier notre passage que nous avons vu ici, surtout la confrontation avec les pharisiens et le passage qui nous a été lu avant. Nous pouvons lier cela au chapitre 3 de Galates, où Paul développe un sujet semblable. Il y a dans le monde deux voies ou deux principes. La Bible les appelle de diverses manières. Il y a la chair ou la loi d'un côté et de l'autre la foi ou la grâce. Et qui que vous soyez religieux, non religieux ou même anti-religieux, vous vivez selon l'un ou l'autre de ces deux principes, l'une ou l'autre de ces deux voies. D'une part, vous vous reposez sur quelque chose qui vient de vous pour atteindre ce que vous considérez comme votre idéal. Et bien entendu, c'est différent pour chacun. Ou bien, de l'autre côté, ayant vu la stérilité de cette voie, qui n'aboutit nulle part, vous vous reposez sur ce que Dieu donne, sur ce qui vient de lui. Il n'y a pas, mes amis, de troisième voie. Vous cherchez le bonheur, un bonheur qui dure, un bonheur final. Vous n'êtes pas le seul. Et vous le cherchez au moyen de ce que vous pouvez faire, de vos efforts ou de ce que vous êtes. C'est la voie de la chair qui s'appuie sur ce que la chair peut faire, ou obtenir, ou atteindre. La Bible appelle cette voie aussi la loi, c'est-à-dire chercher par mes efforts à observer toute la volonté exprimée de Dieu dans l'espoir afin d'obtenir son approbation. Et il est même possible que vous atteigniez un très haut niveau dans cette voie, au point même d'impressionner les autres. Le problème ici, c'est que celui qui donne l'évaluation, celui qui ouvre la porte, n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas les autres qui sont autour de nous. C'est le Dieu parfaitement saint et un très haut niveau d'obéissance ou d'accomplissement ne suffit pas pour lui. Il exige une perfection totale, 100%, ce que ni vous ni moi ne pouvons atteindre par nous-mêmes. Donc vous voyez, le problème avec la voie de la chair, la voie des œuvres, la voie de la loi, cette première voie, ce premier principe, c'est que nous sommes en présence d'un Dieu qui est impossible, qui est intransigeant. Mais il y a une autre voie, nous avons dit, et cette voie-là, c'est la voie, c'est le principe de la foi. Cette voie ne vient pas de la chair, elle ne vient pas des capacités de l'homme, mais uniquement du Dieu de la grâce. C'est une voie qui commence par abandonner tout espoir dans la chair. Sinon, ça n'est même pas possible de commencer. Et en conséquence de cet abandon, et cela est déjà l'œuvre de Dieu, faut-il préciser, à cause de cela, cette voie pousse à se tourner vers Dieu pour se reposer sur ce qu'il a fait en Christ, ce que déclare sa parole, ce qu'il a fait en Christ pour ôter tout obstacle au bonheur éternel, ce bonheur final auquel l'être humain aspire. Pour qu'un homme s'avance dans cette voie, il lui faut abandonner tout espoir en lui-même et voir qu'il est perdu si Dieu ne fait pas quelque chose. Et bien sûr, la question se pose déjà à moi. Est-ce que je suis parvenu à ce point-là? Et est-ce que je suis parvenu à ce point-là d'une manière qui ne vient pas de moi? Bien sûr, c'est moi qui vais désespérer de moi-même, mais ce n'est pas un principe qui est né en moi. Parce que tout de suite, je vais trouver des solutions, je vais trouver des illusions, je vais trouver des moyens de garder quelque espoir qui vienne de moi. Non, la voie de la foi, c'est quelque chose que Dieu fait, que Dieu donne. Et dans notre passage, nous voyons le conflit entre ces deux voies, avec l'opposition des pharisiens religieux face à Jésus, qui est lui, le messager de l'alliance de la grâce. La religion et la loi et la foi, la religion et la grâce, les œuvres et la grâce. Voilà ce que nous voyons ici, entre autres. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais, précisons-le, même pour le croyant, le penchant est de laisser la dynamique de la chair le conduire ou reprendre les rênes, car il vit encore dans la chair. C'est là qu'intervient notre passage. Il enseigne l'élu de Dieu à veiller et à se prémunir contre l'esprit de la chair. Et ce passage, en particulier, comme d'autres, l'enjoint à se souvenir qu'en dehors de la grâce, en dehors de ce que Dieu donne, le meilleur, mes amis, n'est pas différent du pire. Les deux découlent de la même source. Et, hélas, cette source est polluée. Nous sommes donc, à tout instant, sans cesse dépendants de la seule grâce de Dieu, de ce que Dieu donne, une grâce qui se centre en Christ seul. Mais, pour aborder vraiment ce passage, il nous faut voir ce qui a précédé ce passage. Et nous voici à notre premier grand point que j'intitule « La multiplication-la les multiplications. Juste avant notre passage, au début du chapitre 8, s'est produite une multiplication miraculeuse de nourriture pour 4000 hommes, plus probablement ceux qui les accompagnaient de leur famille. Et cette multiplication, en fait, des pains, comme nous le disons, commence l'enseignement du passage et révèle certaines facettes remarquables de l'œuvre de Christ. Sous beaucoup d'aspects, cette multiplication des pains est très semblable à l'autre multiplication des pains qui a été faite pour les 5000 hommes et qui est intervenue quelque temps auparavant et que nous lisons, dont nous lisons le récit au chapitre 6. Et bien entendu, certains se lèvent ici pour en déduire que les auteurs bibliques étaient dans la confusion et que certains ont vu entre cette multiplication les différents éléments et en ont fait deux multiplications. Et ces gens qui se lèvent pour contredire se confortent de ce qui leur apparaît comme une confusion pour rejeter la révélation en bloc. Et nous connaissons cela. Nous l'avons rencontré, n'est-ce pas? Peut-être même en nous. En fait, les deux multiplications, et il y a deux multiplications, visent des buts différents. Parce que les multiplications des pains n'étaient pas simplement pour nourrir des hommes, mais elles avaient des buts plus profonds et elles visaient des buts différents. Et il est très important de relever cela. Dans la première multiplication des pains, Jésus montre à ses disciples que leurs ressources ne suffisent pas pour répondre aux besoins. Et si nous lisons le passage, vous le ferez à loisir, il est dit que l'endroit est désert, c'est-à-dire à l'écart. Mais, au verset 36 du chapitre 6, nous lisons qu'il y avait des villages alentour. Et les disciples disent à Jésus, « Mais renvoie-les » Et ils vont aller dans les villages et ils vont se procurer la nourriture dont ils ont besoin. Jésus dit aux disciples de nourrir la foule, mais ils n'ont pas les ressources pour cela. Même 200 deniers ne peuvent pas couvrir le besoin. Or, 200 deniers divisés entre les 12 représentent à peu près 3 semaines de salaire. C'est quelque chose. Conséquent, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas assez pour la foule. Et c'est exactement ce que Jésus veut leur montrer, là. Le fait que ils ont de quoi faire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dans la deuxième multiplication, celle du chapitre 8, que nous avons vu comme la multiplication des pains pour les 4000 hommes, alors là, la différence, c'est qu'il n'y a aucune possibilité. Le lieu, là encore, il est dit, est désert. Mais il n'est pas fait mention de village avoisinant. Et il ne devait pas y avoir de village, parce que déjà, cela fait 3 jours que les hommes sont là, pendus aux lèvres de Christ. Et s'il y avait eu des villages, ils se seraient débrouillés pour y aller. Non, là, en fait, il n'y a aucune possibilité. Même si les disciples possédaient tout l'or du monde, ils ne trouveraient rien à acheter. Et la leçon, voyez-vous, va beaucoup plus loin. L'être humain n'a pas en soi ce qu'il faut, ni en quantité, ni en capacité, ni en qualité. Voilà donc les leçons, entre autres, des deux multiplications. Et c'est pour cela qu'il est important de ne pas se laisser déstabiliser par les objecteurs, qui en fait ont tout à fait tort. La loi de Dieu, sa volonté exprimée à l'égard de la créature, cette loi est bonne. Elle peut procurer le bonheur éternel pour quiconque obéit, mais elle ne peut pas procurer le bonheur éternel pour un homme pécheur. Elle dit ce qu'il faut faire, mais elle ne donne pas ce qu'il faut pour le faire. Et certainement, dans son état de péché, l'homme n'a pas non plus, n'a plus ce qu'il faut pour obéir parfaitement à la loi, comme nous avons vu, est la norme de Dieu. Donc il n'a pas la possibilité. Et c'est seulement en Jésus, le vrai pain venu du ciel, celui qui a obéi à toute la loi, qui s'est même réjoui de la volonté de son Père. C'est en Jésus seul, en celui que le Père a donné, que se trouve toute la provision pour le besoin de l'homme, pour que l'homme puisse enfin s'élever hors de son esclavage, de son asservissement, pour trouver un bonheur final, un bonheur éternel. Et, mes amis, c'est là l'Évangile. C'est là la bonne nouvelle du salut, le salut qui vient de Dieu, pas un salut qui vient de l'homme. Quel est ce message? Quel est vraiment cet Évangile? C'est que absolument rien ne vient de l'homme. Tout est de Dieu. Et vous qui m'écoutez et qui voulez parvenir au salut, eh bien, écoutez bien, tant que vous avez un petit espoir, si minime soit-il, en quelque chose d'autre que ce qui vient de Dieu, qui ne vient pas par le mérite, qui ne se gagne pas, vous n'avez aucun espoir. Il n'y a pas de bonne nouvelle en dehors de ce complet dénuement de l'homme et de toute la provision en Dieu. Donc, de multiplication, pour enseigner aux disciples des leçons complémentaires, pour qu'ils se connaissent mieux et qu'ils connaissent mieux leur Sauveur. Et c'est le but de toute la parole de Dieu. Dans la première multiplication, Jésus montre qu'ils n'ont pas les ressources. Ils sont à sa merci. Dans la seconde, il n'y a plus aucun moyen de trouver une solution. Le cœur de l'homme est un désert qui ne mène qu'à la mort. Il y a aussi une autre dimension. L'événement, la deuxième multiplication des pains, se produit aux limites du territoire des Juifs. Si vous regardez sur une carte, vous verrez de quoi je parle. Nous sommes juste au bord de des limites qui avaient été accordées aux Juifs, leur héritage. Il est donc certain que la foule se compose aussi de païens, de non-juifs, de gens qui viennent de l'autre côté de la frontière. Et juste avant notre récit, nous avons aussi le récit de la femme syro-phénicienne de l'autre côté d'Israël. Et puis, nous apprenons que Jésus traverse la Décapole, le lieu où il y avait ces 10 villes qui n'étaient pas en Israël. Et en tout cela, Jésus montre que face à l'incapacité des disciples, sa provision à lui pour le salut dépasse de loin les confins de la nation juive. Et il le fera par la croix, puis au moyen des disciples, par l'annonce de la croix jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'à la fin de l'âge. Et c'est exactement la promesse qui avait été donnée à Abraham. C'est en fait la promesse de l'Alliance. Et voilà ce que les multiplications des pains apprennent aux disciples. Deux multiplications donc, pour que l'impie se réfugie dans son incrédulité pour rejeter le salut. Mais il est appointé à cela. Deux multiplications aussi, pour enseigner le disciple. À la fois quoi faire, mais surtout qui être et de quel esprit il doit être animé. La multiplication, les multiplications. Mais passons à un autre point, et je l'intitule « Une grande frustration ». Et nous revenons au titre de notre message, « Les soupirs de Dieu ». Une grande frustration survient en effet pour Jésus. Et vous le sentez, Jésus soupire profondément en lui-même. Et puis plus tard, quand il parle à ses disciples, on sent qu'il est, oui, il est exaspéré, d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'il est homme. Et il n'y a pas de péché là, parce qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais il y a une grande frustration qui survient ici. Combien de fois dans les évangiles ne sentons-nous pas les élans de frustration dans la poitrine du Sauveur ? Combien de temps ai-je déjà été avec vous ? Et tu ne me connais pas, Philippe, par exemple, dira-t-il. Souvent, il y a cette frustration qui est là face à la lenteur des disciples. Chose tellement encourageante pour vous et moi, n'est-ce pas ? Ils étaient vraiment lents comme nous le sommes. Jésus soupirant profondément en lui-même. Mais c'est aussi une grande frustration pour le disciple. Et vous qui êtes disciple, vous qui suivez Jésus, qui le connaissez, vous savez de quoi je parle. Combien de fois ce disciple a l'impression de ne pas avancer, pour ne pas dire même qu'il a l'impression de reculer. Le problème ici, pour vous et moi, c'est que nous mesurons à ce que nous voyons. En réalité, et c'est important pour nous de le saisir et de garder notre grippe là-dessus, c'est en réalité avec le disciple, Dieu avance toujours. Mais il ne le fait pas à la manière des hommes. L'homme pense avancer quand il emmagasine de la connaissance et qu'il peut donner plus d'informations. Mais une bonne partie de l'œuvre de Dieu consiste à décaper, à enlever ce qu'il y a pour insuffler un nouvel esprit. C'est ce qu'on voit dans la conversion. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Et l'œuvre se poursuit tout au long de la vie. Ça n'est pas simplement un point focal, un moment ponctuel dans la vie. C'est un esprit qui doit habiter toute la vie du disciple, la vie du croyant. La parole révèle la mort de la chair et l'esprit donne la capacité de mettre cette chair à mort jour après jour, selon que la parole de Dieu éclaire la voie. Le disciple doit prendre conscience qu'il est toujours qu'en lui réside quelque chose qui milite contre l'œuvre du salut. Il est dans la chair et il est nécessaire pour Dieu de le décaper pour que l'image de Dieu se reflète dans cette vie. Et je ne sais pas si vous connaissez ce procédé, mais dans le temps, nous avions cela, ce qu'on appelle le polissage au chiffon. Alors, il a fallu que je regarde parce que je connaissais l'expression dans une autre langue. Mais voilà, le polissage au chiffon. Il est possible qu'en allant surtout voir des personnes d'un certain âge, vous voyez des meubles ou des tables, une table qui est vraiment très brillante, presque comme si c'était du verre. Et c'est cela. Alors maintenant, il y a des raccourcis comme la vitrification pour arriver à cela. Mais dans le temps, c'était du polissage. Et c'est intéressant de voir que c'est un peu l'image ici. Qu'est-ce qui se passait ? Voilà, la personne voulait que le meuble, en particulier un meuble en bois, soit vraiment très brillant, comme du verre pratiquement. Et donc, la première chose à faire, c'était de ramener le bois à nu. Et on faisait ça avec une ponceuse, avec surtout du papier de verre à gros grains, très, très rustre. Et puis, celui qui avait décapé de cette manière-là passait avec un chiffon un certain produit, et il y avait une petite teinte qui se mettait dans le bois. Et on pouvait dire, ah, voilà, le bois est quand même mieux, ça faisait sortir certaines veines du bois. Mais le polisseur n'était pas satisfait de cela. Alors il prenait de nouveau le ponçage et il ramenait, autant qu'on puisse voir, le bois à nu. Mais en fait, le bois n'était pas complètement à nu. Et il refaisait la même chose. Et des fois, c'était même 100 fois. Et à mesure qu'il travaillait, le fond remontait dans le bois Et la brillance commençait à venir, et il continuait à poncer, et il continuait à passer son produit jusqu'au moment où il pouvait voir son image qui se reflétait. Et en fait, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Alors, ce n'est pas que nous sommes en train de gagner des points avec lui, en vivant plus comme il veut. Non, c'est que lui, il agit avec sa parole et son esprit. Et petit à petit, vous voyez l'image de Dieu qui ressort de plus en plus clairement et qui brille d'un éclat qui n'était pas là au départ. Donc, ce n'est pas de devenir un meilleur chrétien. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Mais c'est de refléter l'image de Dieu. N'est-ce pas une vocation merveilleuse? Et la vie chrétienne, mes amis, est une vocation. À la première multiplication, parce qu'il nous faut revenir à notre texte, n'est-ce pas? À la première multiplication, la réponse des disciples révèle quel était leur esprit. Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Et ils lui répondent, renvoie-les dans les village, et comme ça ils vont pouvoir se débrouiller. Que ces gens se débrouillent. Dans la deuxième multiplication, les disciples commencent à voir leur incapacité et à la voir comme étant un élément réel dans la situation. Ils ne peuvent rien faire et ils n'ont aucune solution. Et comme nous lisons au début du chapitre 8, comment pourrait-on donner à manger? Jésus, pour sa part, est Dieu venu en chair. Et il réagit différemment. Il n'est pas comme les disciples. Au chapitre 6, il regarde la foule et il est ému de compassion. Et nous retrouvons cette même expression de ses paroles mêmes au chapitre 8. Il est ému de compassion face à cette foule. La question se pose à nous. Est-ce que je suis ému de compassion face à cette foule qui marche dans la mort? Et c'est facile de le savoir. C'est facile de le savoir. Parce que le mot qui est utilisé ici, c'est un mot qui s'apparente au mot « entrailles ». Et vous savez, quand vous êtes face à une situation extrêmement difficile, peut-être vous vous préparez pour un examen ou un entretien ou que sais-je encore, et vous avez les entrailles, vous avez l'abdomen qui est serré comme dans un étau. Voilà, Jésus était serré dans l'étau de sa compassion. Et nous pouvons savoir si nous sommes de son esprit. Il était ému de compassion. Il est devant des gens qui sont loin d'être dans une situation idéale. Ces gens-là qui sont devant lui ne sont pas des gens aimables. Non, une bonne partie d'entre eux sont venus par curiosité. Ils sont venus voir Jésus le Nazaréen. D'autres sont là, car voilà le guérisseur qui les rétablira. Et on peut multiplier ainsi toutes ces motivations qui sont engendrées par la chair. Peut-être qu'ils attendaient un conjoint ou un enfant ou que sais-je encore, ce que nous voyons assez souvent aujourd'hui. Jésus peut m'amener ce que je veux. Et comme je le dis, c'est peut-être le cas pour vous aujourd'hui. Vous voulez bien considérer Jésus, mais seulement à cause de ce qu'il peut vous donner pour vivre une vie meilleure. Or, Jésus n'est pas dans cette optique-là du tout. Jésus ne fait pas face ici à des candidats idéaux pour la conversion. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas. Si vous êtes un croyant, et que vous avez autour de vous des incroyants, vous savez combien il y a du désordre. C'était exactement comme cela pour Jésus. Il n'est pas entouré de ses disciples idéaux non plus, ceux qui vont pouvoir poursuivre l'œuvre après son départ. Voilà les piliers de l'Église. Non. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Si le Seigneur vous appelle à conduire l'Église, vous êtes de plus en plus conscient de votre incapacité à le faire, du mélange qu'il y a dans vos motivations, et ainsi de suite. Mais que lisons-nous? La compassion se saisit de Jésus et elle l'étreint. La compassion le tenaille. voici le miracle, des miracles qui mettent en lumière l'incapacité de l'homme, comment pourrait-on trouver suffisamment pour qu'une telle foule mange ? Et le cœur du Dieu sauveur, un Dieu qui est ému de compassion. Voilà le Dieu de la Bible. Et c'est le secret, mes amis, d'un grand problème qui est une source de chute pour l'incrédule, pour l'homme naturel, pour celui qui ne réfléchit que selon sa raison d'homme. Mais c'est aussi une source d'interrogation et de perplexité, souvent pour le disciple. Il nous faut le reconnaître. Et c'est pour cela que Jésus l'enseigne, et c'est pour cela que Jésus forme ses disciples par la révélation de sa parole. Dieu a un peuple élu, une assemblée d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il a choisis de toute éternité. Et il a décidé qu'il les amènera dans sa présence réconciliés. Et il a décidé qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour accomplir ce dessein de grâce. Un dessein de grâce, car il n'y a rien dans ces hommes, ces femmes et ces enfants pour mériter quoi que ce soit, et certainement rien pour mériter cette ouverture de la part de Dieu. Non, rien du tout. Mais la Bible montre aussi que Dieu aime le monde. Certains vont s'offusquer de m'entendre dire cela, mais Dieu aime le monde. La Bible le dit. Il ne désire pas la mort du méchant. Pourtant, le méchant meurt par sa méchanceté. Voici le Sauveur qui marche et s'approche de Jérusalem, et il arrive au sommet de la colline, et Jérusalem s'étend devant lui. Et il regarde Jérusalem. Lui, le Seigneur, il connaît toutes choses. Il sait ce qui va se passer. Il sait qu'il va être rejeté par une méchanceté invétérée. Il sait que d'ici quelques jours, ses mains seront clouées, ses pieds aussi, sera mis à mort. Et pourtant, regardez-le, il pleure. Et pourtant, écoutez-le, combien de fois j'ai voulu. Et il se compare à cette poule qui protège ses petits. Combien de fois j'ai voulu. Et regardez les évangiles, combien de fois nous avons ces offres. Nous avons ces accents de compassion. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le Dieu du salut, mes amis, est un grand Dieu. Venu dans la chair, il n'est pourtant pas à la mesure de l'homme. Il est plus grand que cela. Et dans tout son temps, avec ses disciples, face à cette, ou dans le contexte de cette grande frustration, Jésus les forme, Jésus les modèle, Jésus les met en forme. Il aime, il décape, il bâtit. Et c'est ce qu'ils font par la suite. Et ils passent encore aujourd'hui beaucoup de temps avec ses disciples, avec vous et moi. Et il les aime, et il les décape, et il ne cesse de bâtir avec sa parole, pierre après pierre. Il en fait des pierres vivantes, et il les érige en un temple saint, un temple vivant. Au premier siècle, il les a envoyés dans le monde, à grand coup pour lui, et à grand coup pour eux. Et le monde a été renversé sans dessus dessous. Comme le disent même les non-croyants de l'époque, le monde a été révolutionné. Et Jésus continue de faire la même chose. Il continue aujourd'hui, en ce moment même, à former et à envoyer les siens par sa parole, par le ministère de son esprit et la puissance de son esprit. Il les forme et il les envoie. Continue de les envoyer avec le même coût pour lui et pour eux, c'est-à-dire avec la victoire de la croix. C'est la seule puissance qui est ouverte aux croyants et le renoncement à soi. Et cela, c'est la puissance du Saint-Esprit. Oh, mes amis, ce Dieu est à la fois le Dieu d'amour et le Dieu de justice. Et le méchant meurt dans sa méchanceté. Et le disciple, qui souvent est à la fois trop mou et trop dur, est formé petit à petit et utilisé de Dieu pour avancer son dessein de grâce, son dessein d'alliance. Mais Jésus montre à son disciple, ce disciple qui souvent est trop mou alors qu'il faut être dur, ou qu'il faut être ferme, dirons-nous, ou alors qui est trop dur alors qu'il faut avoir cette compassion. Jésus lui montre ce que c'est d'être saisi par la vérité, et que tout ce qui n'est pas vérité est erreur. Il n'y a pas de compromis. Mais il lui montre aussi ce que c'est d'être ému de compassion. Et cela, mes amis, la chair ne peut pas le produire. Les pharisiens religieux, et nous le verrons plus tard, voulaient le faire, mais ne le pouvaient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils agissaient selon la chair. Ce qui est chair donne naissance à la chair, produit la chair. Voici, et ça c'est l'Évangile, voici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Et nous continuerons une prochaine fois en voyant que ses disciples ont besoin continuellement d'apprendre que le croyant ne vit pas selon l'ancienne manière. Ce à quoi il est tenté de faire. Oh, mes amis, que le Seigneur nous éclaire et par son esprit qu'il donne puissance à sa vérité pour se saisir de notre vie et nous transformer. Et pour vous qui m'écoutez et qui ne le connaissez pas encore dans la liberté du salut, sachez qu'il n'y a aucune autre voie. Seul le Sauveur, celui qui est envoyé de Dieu, mandaté, équipé, celui qui a ensuite envoyé son esprit de puissance, seul celui-là peut le faire. Il est donc temps pour chacun de vous de quitter vos efforts, de les rejeter, de les renier. Ils ne vont pas partir tout seuls. Et de vous tourner comme un mendiant vers ce Dieu rempli de compassion, avec la seule prière qui a de la puissance. Ô Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Que Dieu soit glorifié dans la vie de son peuple. Amen.